déjà, il faut bien dire que le secteur agricole est quand même un secteur très très large. Il y a énormément de métiers, énormément de filières, énormément de possibilités. Mais en même temps, c'est un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui souhaitent aller dans ce secteur-là. J'ai un exemple qui vient tout de suite en tête. En début d'année, là, 2023, on cherchait un chef d'atelier dans le machinisme agricole. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez de personnes qui sont formées pour accéder à ce métier-là.
Vous connaissez l'adage « après la pluie, le beau temps ». Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail ? Lundi au soleil, ça n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, cofondateur et associé de Matribu.io, cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait ? Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, on commence la semaine un peu en fanfare, je trouve. J'ai le plaisir de donner la parole à Amélie Toupart, chargée de recrutement chez MG Consultant. C'est une société qui est spécialisée en ressources humaines dans le domaine agricole. Donc, c'est pour ça que je dis en fanfare, parce que ça nous est jamais arrivé dans lundi au soleil. Et du coup, je suis tout excité. Amélie, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien. Et toi?
Écoute, ça va. La semaine commence bien. Je pense qu'elle va être chargée, mais surtout, elle va être assez palpitante. Le sujet du jour, c'est quoi? C'est le sujet du recrutement, comme son nom l'indiquait un petit peu plus tôt, notamment dans le secteur viticole et agricole. Donc, entre perception, idées reçues, réalité du terrain, vision et bien plus encore. Voilà, c'est le sujet de ta présence aujourd'hui. Donc, je le répète, mais je suis vraiment ravi de t'avoir.
Merci.
Petite anecdote avant de commencer. En fait, tu es mon invité aujourd'hui grâce à l'aide de Charlène, qui est effectivement une consultante RH et qui produit beaucoup de contenu d'ailleurs sur LinkedIn. Et j'avais fait un post récemment pour justement trouver des pépites de ce secteur-là, voilà. Et elle faisait partie des, elle a commenté avec cette recommandation. Donc voilà, merci à elle effectivement pour cette rencontre extraordinaire.
Merci, oui.
Avant de commencer, il y a toujours quelques questions un peu légères avant de passer à un sujet un petit peu plus concret et sérieux. Alors, le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot ?
Les deux. J'aimerais bien qu'il y ait plus de soleil parce que là, il fait très gris ce matin.
Mmh.
Mais sinon, à titre personnel, je suis de très bonne humeur, donc le soleil, il est dans ma tête, on va dire, et j'espère qu'il va venir dans la météo bientôt.
Écoute, on croise les doigts parce qu'effectivement, on est fin juillet 2023 là, et c'est sûr que effectivement, c'est un petit peu changeant. Après, c'est sûr que l'impact qu'on a eu sur la planète nous fait voir des changements, environnementaux, un peu étonnants. À quoi il ressemble ton lundi? Concrètement, comment il est séquencé? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que aucun de ces lundis se ressemble?
Alors, je dirais qu'il n'y a aucun lundi qui se ressemble. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent quand même assez régulièrement. Déjà, forcément, la première chose du matin, vérifier tous ses mails, ses messages, vérifier tout ce qu'on a à faire aussi dans la semaine. Moi, je suis quelqu'un de quand même très organisé, très carré. Donc, c'est vrai que le lundi matin, j'aime bien préparer ma semaine, faire un peu ma to-do list pour être un petit peu plus efficace dans la semaine. Mais après, c'est vrai que le reste de la journée, hein, à partir de 10h jusqu'à la fin de journée, ça, je prévois en fonction des semaines et ça change toutes les semaines pour le coup.
Mmh. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça, c'est le côté excitant de la chose, justement, de jamais avoir aussi un lundi qui se ressemble ou finalement, t'aimes bien quand même avoir, je dirais, des points de convergence entre chacune de ces journées?
Je pense que c'est le gros avantage du métier de recruteur. On fait quand même des choses très, très différentes et tous les jours. Forcément, il y a des tâches qui reviennent assez régulièrement. Mais dans le fond, dans les sujets qu'on aborde, c'est toujours très, très différent. On va recruter pour des métiers très divers et variés. Mmh. Donc forcément, c'est le gros avantage d'être recruteur, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, qu'on apprend tous les jours et qu'on fait des choses très différentes chaque journée.
Ouais, et justement, alors toi tu recrutes, je le répète, mais dans le secteur agricole et viticole sur des postes plutôt cadres dirigeants. Avant de rentrer dans le détail des défis et de ton quotidien, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots?
Ouais. Du coup, moi je fais une école de commerce très généraliste, hein. Je pense un peu comme tout le monde, quand on a 18 ans, c'est difficile de se projeter, de trouver vraiment directement un métier. Comme j'étais plutôt bonne élève, on m'a dit tiens, va faire une prépa. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Je suis rentrée en école de commerce qui était assez généraliste, hein, où j'ai vu un petit peu de tout, marketing, RH, etc. Et j'ai eu surtout la chance d'avoir un professeur en ressources humaines qui était vraiment passionnant, ouais. Et passionné aussi par ce qu'il faisait. Donc, il m'a donné vraiment l'envie d'aller plus tôt dans les ressources humaines. Je savais pas forcément trop vers quelle spécificité ou généraliste. Et j'ai fait un premier stage en tant que chargée de recrutement en Pologne, dans un cabinet multisectoriel. J'ai appris un petit peu plus les bases du métier. Et du coup, quand j'ai voulu chercher mon premier poste après mes études, j'ai voulu d'abord faire un poste de chargée de recrutement. J'avais pas forcément de secteur particulier en tête à ce moment-là. Et moi, il faut savoir que j'ai des grands-parents qui sont agriculteurs. Donc, j'ai baigné dans ce secteur-là depuis toute petite. Hein. Mes souvenirs d'enfance, c'est aller à la ferme avec mon grand-père, on va dire.
Ouais.
Quand j'ai vu une annonce ou simplement sur LinkedIn pour un poste chez MG Consultant qui est un cabinet spécialisé dans le secteur agricole. Donc, je me suis dit, ça match parfaitement avec moi. Donc, j'ai postulé et je les ai rejoints là en août 2021. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. Et pour l'instant, tout se passe très bien et je suis ravie d'être recruteuse dans ce secteur-là en particulier.
Top, c'est une chouette expérience, je trouve. Merci beaucoup de la partager. Spontanément comme ça, j'ai une réflexion qui me vient. Alors moi, j'ai fait une école de commerce. Sincèrement, je l'ai faite un peu à défaut. Je suis vraiment passé en coup de vent, quoi. Tu vois, pour ma part, j'y allais pas beaucoup. J'étais à Reims, qui était une bonne école à l'époque. Je crois que c'est un groupement d'écoles. Enfin bref. Et en fait, dans mes souvenirs, il y a un ou deux profs qui m'ont vraiment c'était pas une épiphanie, mais où je me suis dit waouh, ça c'est des rencontres un peu dingues. Mais j'ai jamais eu d'invités qui m'ont parlé justement de leur parcours académique, tu vois, en me disant j'ai quelqu'un qui a été assez fondateur dans une rencontre, etc. Donc je trouve que ça fait plaisir à entendre, parce que souvent dans le podcast on parle un peu des limites du parcours académique actuel sur l'ouverture, le fait que l'expertise, ce genre de choses, mais le côté humain, il est très important aussi. Donc, je trouve que c'est un bon signal. J'ai quand même une question plus par curiosité. J'ai toujours des questions un peu légères ou un peu popcorn, tu verras. T'es parti faire un stage en Pologne.
Ouais.
Comment ça s'est fait? Toi, t'avais targeté la Pologne. Tu t'es dit, OK, j'ai envie d'y aller. Parce qu'en fait, il y a quand même quelques petites barrières, etc., notamment linguistiques. Comment ça s'est fait?
Alors, déjà, j'ai fait un premier échange Erasmus, justement, en Pologne.
Okay.
À ce moment-là, j'ai choisi vraiment la Pologne parce que je voulais un pays pas forcément trop loin non plus, et forcément avec un niveau de vie ou en termes de prix, c'est avantageux quand t'es français. Mm-hmm. Et quand j'étais au lycée, j'avais eu l'occasion de faire un voyage comme ça d'une semaine avec mon lycée en Pologne, donc j'avais plutôt apprécié l'expérience. C'est pour ça que j'ai choisi de faire mon Erasmus là-bas. Mm-hmm. Et après pour le stage, c'était pas forcément un choix. Hein. Je m'étais pas forcément dit je veux absolument rester en Pologne. Mais je cherchais un stage aussi à l'étranger, au sein de l'Union européenne. Et un peu par hasard, encore une fois, je suis tombée sur une annonce comme ça pour un cabinet, qui est un cabinet français, mais qui a des filiales un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et il y avait cette opportunité-là, encore une fois, en Pologne. Donc, je me suis dit, je suis déjà sur place, je connais le pays, donc autant y rester. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Là, le stage était à Varsovie. Mmh. Après, malheureusement, je suis tombée en plein dans la période Covid. La première vague de Covid, donc c'était assez particulier. Donc, je me suis retrouvée un petit peu enfermée dans un petit appartement à Varsovie, en Pologne, où je parle pas du tout polonais. Donc, ça a pas été simple, mais c'est une expérience très enrichissante pour le coup.
C'est un souvenir qui t'a marqué, quoi. C'était un bon virage.
Oui, c'est ça, oui.
Top. OK. Merci pour ce pas de côté. Moi, je voudrais, dans cette droite lignée, je voudrais continuer sur la partie recrutement agricole et viticole et en fait savoir en quoi il consiste concrètement ton métier de spécialiste du recrutement dans ce secteur-là, en fait. Concrètement, quelles sont tes responsabilités?
Ouais. Alors, du coup, moi, en tant que chargée de recrutement, il faut savoir que dans notre cabinet, nous, on fonctionne toujours en binôme. Mm-hmm. Il y a une chargée de recrutement, j'ai une parce que pour le coup, on n'est que des filles, et un consultant. Mmh. On se partage le travail, on travaille vraiment à deux. Le consultant va déjà s'occuper plus de la partie commerciale, faire de la prospection, trouver de nouveaux clients. Et après, pour le reste, on travaille ensemble. Donc, on va faire un brief avec le client pour déterminer quels sont leurs besoins, quel est le contexte du recrutement, comment on peut les accompagner. Mmh. Moi, je m'occupe surtout de la première partie du processus de recrutement. Donc, je vais rédiger une annonce, la publier. Autant sur les sites, les job boards généralistes, mais on a aussi des spécificités, hein, des job boards spécialisés dans le secteur agricole.
On reviendra là-dessus tout à l'heure, justement.
je vais forcément préqualifier les personnes qui répondront à cette annonce, faire une première présélection, et je vais me faire une grosse partie de sourcing, puisqu'on est, comme on l'a dit au début, sur des postes de cadres et dirigeants qui ont un taux de chômage très bas. Donc, les réponses annonces, en général, n'engendrent pas énormément de candidatures. Donc, c'est surtout un gros travail de sourcing via LinkedIn, via les job boards, etc.
Sourcing pour les candidates et pour les auditrices et les auditeurs, tu vois, je suis déjà dedans. C'est effectivement la recherche active, on va dire.
Voilà. C'est aller chercher des candidats qui n'ont pas postulé, mais qui pourraient être intéressés par le poste. Donc là, c'est un peu l'inverse de l'annonce. L'annonce, ils vont postuler, c'est eux qui veulent rejoindre l'entreprise. Et quand on fait du sourcing, on va essayer de convaincre les personnes d'aller rejoindre cette entreprise. Et du coup, je m'occupe de cette première partie de présélection, de préqualification, de donner envie aussi aux personnes de postuler à ce poste.
Alors déjà, merci pour cette précision-là. Ce que j'entends là, si je lis entre les lignes, mais je parle sous ton contrôle, c'est il y a quand même... une tension très dynamique, c'est-à-dire que peut-être que je me trompe, tu vas nous dire ça, mais en fait il y a des secteurs, je pense, tu vois, dans le tertiaire et en particulier la tech par exemple, pour être tu vois un peu caricatural, où tu fais une annonce et il y a souvent beaucoup de postulants parce que c'est un secteur où une population plus jeune a très envie de travailler, etc. Pour autant il y a une réalité bien plus difficile, je pense. Bref, et du coup, à quoi c'est dû effectivement cette notion de, tu vois, de tension dans ton secteur? Est-ce que c'est parce qu'en fait, les gens ont des carrières girafes où ils restent dans leur poste très longtemps et ils changent pas beaucoup, ou c'est juste qu'il y a pas beaucoup de candidats, il y a moins de candidats qui se présentent et du coup, faut vraiment aller sur le terrain les chercher, quoi?
Déjà, faut bien dire que le secteur agricole est quand même un secteur très très large. Il y a énormément de métiers, énormément de filières, énormément de possibilités. Mais en même temps, c'est un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui souhaitent aller dans ce secteur-là. Par exemple, il n'y a pas forcément toujours énormément de personnes qui sont formées pour les métiers techniques. J'ai un exemple qui vient tout de suite en tête. En début d'année, là, 2023, on cherchait un chef d'atelier dans le machinisme agricole, donc assez technique, dans les tracteurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez de personnes qui sont formées pour accéder à ce métier-là. Donc, pour en trouver un, déjà, ils postulent pas parce qu'ils sont tous déjà en poste. Et après, pour les convaincre de changer de poste, faut vraiment que l'entreprise ait des avantages significatifs pour donner envie à la personne de changer. Donc, ça peut être le salaire, les conditions, etc. Mais c'est pas toujours évident et on n'a pas assez de... Des fois, il y a certains métiers où il n'existe même plus aujourd'hui en France de formation pour accéder à ce genre de métier. Donc, forcément, ça complique un petit peu les recherches et les recrutements.
Est-ce que ça veut dire que dans ce cas précis-là, merci pour ce cas, je trouve qu'il est bien parlant, est-ce que ça veut dire que les boîtes ou les employeurs doivent se substituer et eux-mêmes proposer la formation ou trouver les formations pour, et du coup c'est un coût et ça c'est un frein sur le recrutement, ou c'est un truc qu'ils doivent faire point barre parce que sinon ils peuvent pas recruter?
Aujourd'hui, ça arrive de plus en plus, des entreprises qui vont proposer des formations et un accompagnement directement en interne. Après, ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est d'essayer de trouver des personnes qui viennent de secteurs un petit peu connexes ou ressemblants et les accompagner pour apprendre la technicité du secteur agricole. Je reviens sur mon exemple de chef d'atelier. On peut trouver, par exemple, un chef d'atelier plutôt orienté poids lourd, ou dans le BTP, le TP, pourquoi pas à la limite l'automobile, où il y a quelques points de ressemblance, et après les accompagner en interne pour avoir cette technicité liée au secteur agricole. Ce qui se fait de plus en plus, puisque forcément, on n'a plus forcément le choix, et parfois il vaut mieux faire ça et prendre le temps d'accompagner la personne en interne, pour qu'il acquiert ou qu'elle acquiert le bon niveau, plutôt que de se focaliser sur un profil parfait qui connaît tout. Des fois, on arrive à des processus de recrutement qui durent des mois, même qui amènent à un échec parce qu'on n'arrive pas à trouver la personne qui a déjà toutes les compétences.
Ok, donc c'est aussi un métier de... Il faut être pugnace et il ne faut pas baisser les bras, j'ai l'impression. Est-ce que...
Oui. C'est sûr que quand on est recruteur dans le secteur agricole, faut être tenace et faut aussi prendre en compte les délais. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent chez les recruteurs. Combien de temps on met pour le recrutement final? Donc, c'est vrai que dans le secteur agricole, on a des délais qui sont beaucoup plus longs, par exemple, que comparé à la tech, au marketing en général ou ce genre de secteur. Nous, on est sur une moyenne plutôt autour de 7 semaines pour pouvoir commencer à présenter des profils. Donc, tout de suite, il faut prendre en compte ça aussi pour les entreprises qui recrutent. Il faut aussi qu'elles soient capables de prévoir à l'avance leurs besoins de recrutement.
Bien sûr.
Et quand elles font appel aussi à nous ou qu'elles recrutent par eux-mêmes aussi, il faut souvent qu'ils prennent en compte ce délai-là qui est souvent beaucoup plus long que d'autres secteurs.
Et sur la mission globale, entre le moment où tu fais le brief que c'était évoqué tout à l'heure et celui où tu trouves le candidat, où il arrive dans la boîte, est-ce que tu as des délais moyens à peu près là ?
Alors ça, j'aurais pas les données. Voilà, c'est très variable. Des fois, entre les préavis, des fois la personne est disponible tout de suite. Des fois, il faut 6 mois avant que la personne puisse arriver. Donc c'est très variable pour le coup.
Je reviens sur les particularités que t'évoquais, sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de sourcing finalement et assez peu de candidats entrants. Il y a cette notion de technologie, de formation qui est importante. Est-ce qu'il y a d'autres particularités à ces marchés-là en termes de recrutement qui sont des points saillants?
Alors, il y a un autre sujet qu'on aborde de plus en plus dans les entreprises, c'est les recrutements internationaux.
Okay.
Parce que sur certains métiers, on a une pénurie en France. Hein. J'ai un exemple là, depuis le début juillet 2023, je recrute pour un responsable d'exploitation en maraîchage, des légumes, salades, tomates, etc. Qui est un poste qu'on retrouve évidemment énormément dans le secteur, hein. Ça paraît plutôt logique. Mais c'est un secteur c'est un métier qui demande énormément de compétences. Ça demande des connaissances agronomiques très importantes, la connaissance du climat, des sols, du management, puisque souvent c'est un métier où il faut travailler en équipe, il faut manager des ouvriers. Et aujourd'hui, en France, il n'y en a pas beaucoup qui font ce métier-là. Et c'est aussi un métier qui ne plaît pas forcément toujours aux jeunes générations, puisque c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de contraintes, c'est physiquement, ça peut être assez dur. Et du coup, sur ce type de poste, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont plus trop le choix que d'aller recruter à l'étranger et de prendre d'autres personnes partout en Europe, mais aussi en Afrique du Nord. Aujourd'hui, je pense notamment à la Tunisie, au Maroc, ils ont des écoles d'ingénieurs agricoles qui sont excellentes, du même niveau que ce qu'on a en France. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher les talents dans d'autres pays pour les faire venir en France pour mieux recruter et plus rapidement aussi.
Et ça pose des... Tu parlais de, par exemple, d'Afrique du Nord. Effectivement, il y a des profils avec des écoles qui sont probablement assez pointues. Il y a un sujet challenge et complexité, je dirais, administrative, parce que quand tu vas chercher en Europe, c'est finalement assez facile de faire venir quelqu'un. Mais quand d'un point de vue international, c'est plus complexe, non?
Oui, forcément, il y a des démarches administratives beaucoup plus lourdes. Hein. On peut pas recruter quelqu'un comme ça qui n'est pas citoyen européen. Donc pour les entreprises, ça demande une réflexion. Est-ce qu'ils préfèrent faire ces démarches administratives qui peuvent durer aussi ou essayer de se borner à un recrutement en Europe? C'est un choix à faire. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Je sais pas quelle est la meilleure solution, mais c'est une possibilité aussi de recrutement.
Ok. La question que je me posais au regard de l'exemple que tu donnais, c'est, par exemple, sur le profil de maraîcher, j'aimais bien beaucoup cet exemple, c'est en fait, pourquoi il n'y a plus de profils comme ça? Tu parlais de pénibilité du travail, rémunération. Est-ce que c'est parce que en France, il y a aussi peut-être moins d'écoles qui proposent ces formations-là? Parce qu'en fait, je dirais pas naturellement, parce que c'est triste de le dire comme ça, mais en fait, c'est un métier qui est devenu moins attractif au fil des années et qui a été moins boosté d'un point de vue académique. Et donc, il y a moins d'écoles, donc il y a moins de postulants, etc. Ou c'est aussi simplement l'image que ça renvoie la dureté de la réalité du métier, quoi.
Déjà, je pense qu'il faut bien préciser qu'en France, on a un enseignement agricole qui est vraiment très bien structuré, qui est très bien organisé, autant du CAP jusqu'au doctorat. On a énormément d'écoles, on a toute une bonne partie des formations possibles, donc c'est un secteur très très important en France. Et le gros problème, ça reste les conditions de travail, le salaire qui est pas forcément extraordinaire, la pénibilité. Et souvent, c'est des profils, comme je le disais, maintenant, être responsable d'une exploitation agricole, faut connaître un petit peu tout. Autant l'agronomie, vraiment la précision des sols, l'administrative, la gestion d'une entreprise. Donc, c'est beaucoup de profils qui ont fait des grandes études, voire des masters, des profils ingénieurs en école d'ingénieurs. Et des profils, du coup, qui vont peut-être commencer leur carrière sur ce type de poste, mais au bout de 2-3 ans, vont être sollicités, appelés pour d'autres postes beaucoup mieux payés, avec moins de difficultés, moins de pénibilité. Donc forcément, quand t'as cet âge-là, ça peut être attrayant, même si t'as la passion, même si t'as l'envie de continuer sur ce genre de poste. Au bout d'un moment, quand on t'appelle plusieurs fois dans la semaine pour parler d'autres opportunités qui sont tout aussi intéressantes et passionnantes, forcément, au bout d'un moment, pour le jeune ou la jeune, il va être tenté facilement de changer.
Ouais, bien sûr, t'as vite envie de passer sur autre chose. Moi, je me souviens, j'avais un client qui faisait du vin, qui avait une grosse exploitation dans le Bordelais. Bon, c'est toujours quelqu'un dont je suis assez proche. Et je me souviens de cette discussion. Je te dis ça, c'était il y a 4 ou 5 ans, et probablement c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est pas probablement d'ailleurs. Elle était en tension. Mais extrême sur les recrutements dans tout ce qui était vigne. Je te parle pas juste des gens qui ramassent les raisins, etc. Je te parle de globalement dans les exploitations. Parce qu'en fait, à l'époque, le vin, c'était quelque chose de très familial, où grosso modo, tu vois, tu devenais un peu winemaker. Enfin, tu travaillais dans la vigne de père en fils, de mère en fille, etc. Il y avait une notion très filiale et filiation, pardon. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu es sur le volet à la fois agriculture et plus spécifiquement aussi viticole? Est-ce que tu vois deux dynamiques différentes sur ces secteurs-là? Est-ce que c'est absolument similaire et grosso modo, dans les deux cas, faut aller sourcer comme pas possible, etc.
Oui, déjà nous en MG Consultant, on fait vraiment les deux, hein, tant toutes les filières agricoles que la partie viticole. Mais je pense que oui, il y a clairement une différence très importante sur la partie viti. On a tout de suite beaucoup plus de réponses-annonces. Parce que c'est un secteur qui plaît, qui attire beaucoup plus, qui a une bonne image. C'est un petit peu le cliché du français avec sa bouteille de vin. Ça a une image aussi un petit peu classe, d'élégance à la française. Forcément, ça attire beaucoup plus. Il y a aussi énormément de formations en France spécialisées dans le secteur du vin. Donc, ça aide aussi. Et même des personnes qui ont des études plus généralistes, forcément liées à l'image, etc., ils ont plus tendance à vouloir postuler dans le secteur du vin que dans le secteur des céréales, par exemple, qui a moins cette image d'élégance, de la France culture.
Ouais, c'est sûr que effectivement, et en fait, et c'est un peu idée reçue d'ailleurs, parce que finalement, quand tu travailles dans des exploitations, quel que soit le moment où tu travailles, il y a peut-être un côté, c'est peut-être un petit peu plus doré dans l'image en fait, mais finalement, dans le concret, dans ta journée, c'est finalement assez proche quand même. Moi, j'avais une question quand même qui me taraudait depuis tout à l'heure sur. On a parlé de compétences. Tu parlais de compétences techniques et technologiques, et je pense que c'est indispensable dans ce milieu-là et du parcours académique. Est-ce qu'il y a une notion de hard skills, soft skills, de compétences qui sont effectivement que toi, par exemple, tu recherches dans ces profils-là?
Alors, forcément, je pense que les hard skills restent quand même les premiers critères. Hein. On s'en rend pas forcément toujours compte si on n'est pas issu du secteur agricole, mais c'est extrêmement technique. Voir les plantes pousser, voir ce qu'on a besoin de leur apporter, il faut avoir ces compétences-là et ça s'improvise pas. Hein. On peut pas d'un seul coup s'improviser agriculteur. Il faut avoir ces connaissances techniques. Pour tous nos clients, ça va être d'abord les compétences précises, après qui peuvent être, comme on le disait, des compétences transverses dans d'autres secteurs, mais qui peuvent se ressembler. Et dans un second temps, c'est sûr que la partie plus soft skills, comment la personne interagit avec les équipes, va être importante. Ce qu'on a souvent comme demande, c'est d'avoir des personnes qui sont capables de faire preuve d'autonomie, capable d'aller chercher les informations par eux-mêmes, d'apprendre aussi. On parle beaucoup d'auto-formation maintenant. Et c'est vrai que le secteur agricole, c'est un petit peu cliché, mais c'est la réalité. C'est souvent des gens qui ont un certain relationnel assez particulier, où ça échange beaucoup. C'est beaucoup par la voix, par l'échange, par la discussion. Ouais. Donc en général, ils recherchent aussi des gens qui ont ce côté-là, relationnel, esprit d'équipe, qui vont travailler ensemble, qui vont avoir cette façon aussi un petit peu, on peut dire, la tchatche. Même si c'est pas vraiment ça, mais cette idée d'être capable d'échanger, de communiquer, de parler avec tout le monde.
Ok, non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as raison, c'est un métier qui est finalement assez humain. En revanche, je connaissais pas cette facette effectivement de notion de proactivité, en tout cas d'aller chercher l'info. Je trouve que c'est intéressant. Quand toi tu recrutes des profils, quels sont, je dirais, les arguments que tu vas mettre en avant ou les points de différenciation parce que qu'ils viennent de la même filière, on va dire, ou tu parlais tout à l'heure de filière automobile, potentiellement de filière proche, quels sont les arguments que tu vas mettre en avant sur ce changement de job, tu vois?
Alors déjà, je pense que le plus évident, c'est parler un petit peu du sens. L'agriculture, okay. Ça reste nourrir des millions, voire des milliards de personnes si on parle à l'international. Donc forcément, ce sens-là est très important. C'est un secteur aussi, on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais qui est extrêmement innovant. En France, il y a énormément d'innovation dans ce secteur. On est à la pointe de la technologie. Donc c'est des sujets en général qui attirent, hein, qui parlent à tout le monde. Et il y a aussi ce côté, bah, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'écologie, de développement durable, d'améliorer les pratiques. Donc ça, c'est aussi un sujet qui revient de plus en plus dans le secteur agricole, de comment améliorer ça, améliorer les pratiques, améliorer aussi la qualité des événements. Mmh. Ça aussi, c'est un des arguments qui est assez important. La deuxième partie, ça va être aussi de rassurer sur les conditions. Hein. Comme on le disait, c'est l'image un peu de l'agriculture, c'est quelque chose d'extrêmement pénible où tu comptes pas tes heures, où tu as des conditions de vie mauvaises. Ça peut arriver, malheureusement, hein, mais il faut bien préciser que ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi avoir des entreprises très ouvertes où ils vont tout faire pour apporter des bonnes conditions à leurs salariés.
Alors c'est intéressant ce retour, j'aime bien avec le côté effectivement très environnemental, il y a souvent des arguments effectivement qui font mouche. J'imagine qu'il y a des sensibilités différentes en fonction des candidats, il y en a qui sont plus orientés sur le sens, d'autres plus orientés sur effectivement la configuration, etc. Moi j'avais une question qui me trottait aussi dans la tête encore, c'était la place du diplôme. J'imagine que tu as un peu des self-made women, self-made man, tu vois, est-ce que aujourd'hui toi dans les gens que tu recrutes, soit tes clients les employeurs, ils te disent non, moi j'ai besoin d'avoir vraiment quelque chose de très balisé, ou ils te disent en fait moi je cherche une personne avant tout et qui a des compétences, mais qu'elle soit diplômée ou pas, tu vois ce que je veux dire. Du coup, est-ce que le diplôme c'est vraiment un élément fondateur?
Alors je pense que pendant très très longtemps le secteur agricole était quand même extrêmement fermé. Donc ça veut dire que si tu n'étais pas fils ou fille d'agriculteur plus un diplôme dans le secteur agricole, c'était quasiment impossible d'être recruté, pour le dire. Mmh. Aujourd'hui, il y en a encore qui sont dans cette position-là. Il y a certaines entreprises où si t'as pas fait les études lycée agricole ou ingénieur agricole, ils vont te regarder un petit peu de travers et ils vont pas forcément être très enclins à te recruter. Mmh. C'est une situation. En revanche, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Hein. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'ouvrent, hein, comme on le disait, à des compétences plus transverses, donc aussi à des diplômes plus transversaux, qu'on fait d'autres choses. Malheureusement, aujourd'hui, je pense pas que ça soit la majorité des entreprises. Mmh. Si demain, il y en a qui nous écoutent et qui veulent se reconvertir dans le secteur agricole, je pense qu'il faut forcément passer par un diplôme, une formation précise pour être recruté, sinon ça va être très, très compliqué.
Ok, c'est marrant. Donc il y a cette petite frontière, voilà, importante à franchir, une barrière à l'entrée. Je reviens sur toi 2 minutes parce que j'ai quand même une question. Je comprends dans la discussion qu'on a là que c'est quand même. Je dis pas que dans les recrutements dans d'autres secteurs c'est hyper facile, etc. Mais là, tu nous as parlé de la configuration. On sent que c'est finalement assez complexe quand même. En tout cas, il y a une configuration assez inédite. C'est quoi ta plus grosse fierté ou ta plus grosse prouesse que tu as eue ces derniers mois, ces dernières semaines dans ton travail?
J'aurais pas un exemple particulier, ça va plutôt être en général. C'est vrai que comme c'est un milieu assez où il n'y a pas forcément énormément de candidats, souvent ce qu'on propose à nos candidats, c'est un changement de vie. Mmh. Ça arrive assez régulièrement qu'on fasse déménager toute une famille à l'autre bout de la France. Et que le papa, la maman, les enfants, ou peu importe la configuration, c'est un gros changement de vie. Et c'est vrai que ça reste une grosse fierté quand on les rappelle, par exemple, 6 mois après, et qu'ils nous disent que c'est la meilleure décision qu'ils ont faite dans leur vie, que c'est parfait, les enfants sont contents, eux, ils adorent leur poste et leur entreprise, et qu'ils nous remercient d'un côté d'avoir pris le temps d'échanger avec eux et de les appeler directement pour leur proposer le poste.
Ouais, c'est la notion de un mix entre le devoir accompli et un peu il y a une notion d'aventure humaine aussi, j'ai l'impression. Oui. Quand même, parce que tu parlais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un côté très relationnel et du coup tu tisses des liens en fait, quoi. Mais à contrario, quand ça marche pas, quand finalement la personne n'est pas prise et que t'as passé je sais pas 1 mois, 2 mois, je sais pas quelle est la longueur du moment où tu vois où tu fais le process avec le candidat et en fait il n'est pas pris par l'entreprise. Dans ces cas-là, c'est alors je vais pas faire le comparo avec le médecin qui annonce à un patient un truc, tu vois, bien évidemment, mais c'est quand même c'est des moments très difficiles parce que tu t'es mouillé personnellement dans le truc et puis t'as créé du lien avec le candidat. Comment tu réagis toi à ces situations-là?
Forcément, c'est la partie la plus désagréable du métier. Hein. Quand on est recruteur, on dit oui des fois à des candidats, mais c'est vrai que la majorité du temps, on dit non à des gens. Des gens qui ont envie, qui ont une motivation, qui peut-être ont engagé beaucoup de choses dans le processus. Donc oui, évidemment que c'est parfois très triste, très dur. Après, c'est aussi notre métier de nous organiser, de préparer les choses pour faire un retour construit à la personne. Pas juste lui dire c'est non. Lui expliquer pourquoi c'est non, lui conseiller aussi pour s'améliorer et pour plus tard être embauché dans le poste de CRM. Et après, nous, c'est vrai, dans le secteur agricole, c'est beaucoup de candidats qu'on connaît depuis un petit moment.
Ouais, c'est
certains,
ça.
On les a suivis sur plusieurs processus tout au long de leur carrière. Donc, avoir un nom pour un candidat qu'on suit, ça veut pas dire c'est fini. Souvent, on va les revoir plus tard, on va sans doute leur proposer d'autres postes à l'avenir. Donc, quand on leur dit non, on leur dit très bien, mais par contre, comme on a toutes les infos maintenant, on va pouvoir vous recontacter et dès que j'ai une opportunité, je vous appelle tout de suite et vous aurez peut-être un autre poste bientôt.
Oui, oui, c'est ça. Donc, tu te projettes aussi dans un accompagnement qui est plus, je dirais, pérenne et
global.
Et tu penses à les placer dans d'autres missions. Ok. Je reviens sur un point que tu évoquais juste à l'instant et un petit peu plus tôt quand tu parlais d'innovation dans le secteur. Et je pense que c'est très important cette place-là. Il y a une innovation effective. Enfin, il y a une évolution, pardon, rapide de la tech, de l'automatisation croissante dans l'agriculture, entre autres. Est-ce que ça veut dire que tu parlais du candidat que tu as déjà vu, qui a fait un process, que tu as peut-être placé chez un client et que tu revois peut-être 2-3 ans plus tard, etc., et de l'importance de la formation. Est-ce que quand tu le revois, s'il s'est pas formé, en fait, ça veut dire que ça va être vachement plus difficile pour lui de trouver un job parce qu'en fait, la tech est allée très, très vite et donc la formation est indispensable. Ou en fait, de toute façon, dans les jobs dans lesquels ils sont, fatalement, il y a une notion d'accélération technologique. Donc, ils y sont confrontés. Donc, de toute façon, ils se forment. Comment est-ce que tu perçois des signaux particuliers là-dessus?
Déjà, je pense que ça dépend forcément des métiers. Il y a des métiers qui évoluent très vite, d'autres beaucoup moins. Mmh. En général, oui, la plupart des entreprises aujourd'hui dans le secteur accompagnent vraiment leurs employés, donc les forment au quotidien, même si c'est pas forcément toujours des grosses formations, mais juste à la demi-journée, des formations en ligne, etc. Toutes les entreprises aujourd'hui le font. Mmh. Et il y a de plus en plus, surtout pour les plus jeunes, on va dire, hein, qui vont s'auto-former, comme on le disait tout à l'heure, qui vont avoir tendance à aller chercher un petit peu plus les informations par eux-mêmes, aller participer à voir des MOOC ou ce genre de choses. Donc, en général, oui, je pense que tous les salariés du secteur agricole ont tendance à aller chercher les informations par eux-mêmes et s'auto-former assez régulièrement.
Ouais. Et alors j'ai une question à laquelle tu auras peut-être pas la réponse, mais quel est le sentiment de cette population-là, à la fois une population plus jeune qui arrive sur dans ce secteur-là, ou celle un petit peu plus, je dirais pas vieillissante, mais un petit peu plus senior dans le métier. Quelle est leur perception par rapport justement à cette transformation technologique, de se dire est-ce qu'ils se disent en fait c'est les jobs les plus pénibles qui vont être remplacés potentiellement, etc. Où ils ont une appréhension en se disant en fait moi j'arrive dans ce métier-là mais du coup peut-être que mon métier dans 5 ans il n'existera plus, tu vois, quelle est leur perception par rapport à ces changements structurels et conjoncturels?
Je pense qu'il y a un clivage quand même assez important entre les générations.
Okay.
C'est vrai que les plus anciens ont peut-être un peu plus peur de ces changements parce qu'ils connaissent moins. Ils sont moins habitués à ça et ça va extrêmement vite. En quelques années, il y a énormément de changements qui ont eu lieu. Donc, pour quelqu'un qui a toujours fait son métier d'une manière, ça peut être très compliqué de changer et de s'adapter aux changements. Alors que la jeune génération, ils sont nés un peu avec ces nouvelles technologies. Ils ont grandi avec ces évolutions très rapides. Mmh. Donc, pour eux, je pense qu'ils doivent se poser sans doute peut-être moins de questions puisque c'est plus dans l'ordre naturel de ce qu'ils ont l'habitude de voir et de faire. Mmh. Et du coup, ici, adapte aussi un petit peu plus. Après, ce qui ne veut pas dire que tous les jeunes s'en foutent ou que tous les vieux sont terrifiés par les innovations. C'est
évidemment
pas du tout le cas. Mais je pense que c'est ce qu'on voit quand même souvent.
Ok. Merci pour cette réponse qui n'était pas une réponse de Normand. Moi, j'aime bien, c'était tranché. j'ai une question qui est pareil, un petit peu, qui est peut-être complexe. Mais quels sont les métiers que tu identifies qui ont soit émergé très récemment, soit qui vont être les métiers de demain, en fait? Si tu as des idées spécifiques en tête.
Déjà, on en a un petit peu parlé, mais tout ce qui est lié au machinisme, à la robotique. Mmh. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de robots chez les exploitants agricoles pour justement réduire, comme on le disait, le côté pénible du travail. Mmh. Il y a besoin, il y a un fort besoin dans ce domaine-là, bah, pour créer les robots, les programmer, la maintenance aussi, c'est important. Donc, c'est des métiers liés aux ingénieurs robotiques, à maintenance robotique qui se développent de plus en plus dans le secteur agricole. Après, j'avais identifié aussi, j'ai fait un recrutement comme ça en début d'année 2023 sur un poste de responsable qualité. Okay. Forcément, le secteur agricole et agroalimentaire a souffert quand même assez régulièrement de certains scandales liés à l'alimentation.
Ouais, je comprends.
Aujourd'hui, et plus aussi le côté changement des habitudes alimentaires aussi des gens qui veulent plus en plus de qualité, avoir des meilleurs produits. Mmh. Donc, les postes de chargé de qualité, responsable qualité se développent de plus en plus et deviennent vraiment un enjeu dans toutes les entreprises. Et on en avait aussi un petit peu parlé, le côté écologie. Hein, le secteur agricole fait face à énormément de changements, énormément de problèmes liés à ce côté écologie, développement durable. Donc, par exemple, les postes de chargé de mission agroécologie, ça se développe de plus en plus. Et pour toutes les entreprises, dans toutes les filières, ça devient un enjeu de comment on va s'adapter demain au changement climatique, comment on va s'adapter demain au changement d'attente aussi des consommateurs en termes d'écologie, de développement durable.
Ce que j'aime bien là dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, je lis pas mal de bouquins en ce moment. Enfin, j'ai toujours lu beaucoup de bouquins sur le futur du travail et entre autres l'automatisation. Et t'as des trucs très très orientés autour de la robotique. T'en as parlé, c'était ton premier exemple. Mais tu vois, sur la partie responsable qualité, sur la partie RSE, HSE, ce genre de choses, je trouve que c'est intéressant parce que là, il s'agit pas du tout de technologie. Là, t'es dans le dur de la production. Donc ça c'est des signaux forts en fait, je trouve. Après sur le premier volet, je raconte une petite anecdote, mais l'autre jour, c'était fin juin 2023, j'étais chez un client qui produit qui fait des produits type crème estivale, ce genre de choses, mais un peu plus quoi, assez quali, etc. Alors c'est pas le même secteur hein, bien évidemment, mais grosso modo, il me faisait visiter tout l'atelier de création, etc. Donc déjà, c'était assez passionnant d'un point de vue technologique parce que tu sentais qu'il y avait, mmh. il y avait une nécessité d'innovation. En fait, il y avait un besoin, une envie, mais il y avait une nécessité d'innovation. Grosso modo, il te disait, enfin, on passe à cette machine-là parce que, en fait, voilà, si on veut produire mieux, si on veut produire différemment, il y avait une notion de productivité. Bon, ça, c'était le premier sujet, de rentabilité, mais ce qui est normal pour ces entreprises-là. Et puis, tu avais une deuxième notion que j'ai trouvée très, très, très intéressante, qui était la notion de... Il y a un peu de productivité là-dedans, mais il y a beaucoup d'humains. Grosso modo, il y avait une machine où ils étaient trois, je crois, tu vois, et donc ils triaient les capuchons, les machins, tu vois, les sacs en plastique et tout. Enfin, c'était pas en plastique en l'occurrence, mais les échantillonnages et tout. Et je lui dis, mais il me dit, on était trois, ils étaient trois sur cette machine et tout. Il me dit, du coup, j'ai tout automatisé avec l'équipe on n'a plus qu'une personne, voilà, qui est vraiment en mode contrôle qualité. Donc, il y a cette notion de contrôle qualité, effectivement, qui revient complètement, qui se renforce. Je lui dis, au rythme de poser un peu une question merdique, je lui dis, t'en as fait quoi des deux collaborateurs, en fait, qui bossaient là-dessus? Bah, il me dit, je les ai changés de métier, en fait. Et je lui dis, mais tu les as changés de métier? Il me dit, mais je lui dis, tu les as mis où? Mais il me dit, en fait, il se faisait un peu chier, quoi. C'est-à-dire, quand tu fais du tri de bouchons de plastique, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Donc, il me dit, en fait, on les a mis, on leur a proposé de les mettre ailleurs dans la ligne sur des trucs à plus grande valeur ajoutée, on va dire. J'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait un peu bullshiteux. Mais du coup, il me dit, en fait, il y a une sensation de... Le collaborateur, il bouge aussi sur des tâches qui sont plus importantes, plus impactantes dans la boîte et surtout dans la ligne de production, quoi. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je te dis, je pense que dans l'Indie au Soleil, on n'est pas assez, on regarde pas assez ce qui se passe dans ces productions-là. Mais il me disait, en fait, ça a changé aussi la façon dont les gens travaillaient parce qu'ils disent, OK, il y a de l'innovation, mais on n'a pas peur de cette innovation-là. Parce qu'en fait, on la regarde comme quoi nous, on peut rebondir sur d'autres métiers qui vont encore davantage nous challenger ou être potentiellement d'ailleurs moins pénibles, moins répétitifs, moins chiants, quoi.
Oui.
Donc ça, je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est un message fort à mettre en avant. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision-là et ce discours-là et qui, en rassurant là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose, quoi, qui est assez fondateur.
Beaucoup ont peur que ben on supprime des métiers, ce qui va être le cas, hein, on va pas se mentir. Forcément, si on met des robots dans les champs, par exemple, ben on a moins besoin d'ouvriers agricoles dans les champs.
Bien sûr.
C'est évident. Donc oui, il y a des métiers qui vont être supprimés, mais il y a aussi énormément d'autres métiers qui vont être créés. Mmh. Après, l'enjeu, ça va être d'accompagner justement ces salariés dans ce changement et de les former pour qu'ils puissent aussi voir un autre métier par la suite. Donc, il y aura un gros sujet d'investissement dans la formation pour justement rechanger les gens de métier, qu'ils apprennent d'autres choses aussi.
Et tu crois que la formation en France, elle sera suffisamment véloce pour matcher justement les besoins et les demandes qu'il peut y avoir sur effectivement tous ces nouveaux métiers-là, où on sera, comme ça arrive parfois dans d'autres secteurs ou dans d'autres sujets en France, on sera peut-être un poil en retard et ça sera pas suffisant?
Je pense que c'est assez difficile de répondre comme ça à la question. Mais après, dans le secteur agricole, en tout cas, les formations en France sont souvent en avance. Le secteur agricole français est bien avancé, bien dans l'innovation technologique. Et les formations, si on va en école d'ingénieur, on voit que tous ces sujets-là sont très abordés. En tout cas, dans mon secteur, je m'inquiète pas forcément beaucoup de cet aspect-là. D'autres secteurs pourraient peut-être être impactés. En agriculture, je pense que oui, les écoles ont bien pris en compte ces changements technologiques.
Ok. Bon, top. Ça, c'est plutôt un bon signal. Moi, je reviens sur un autre sujet que je voulais évoquer un petit peu plus tôt. C'est quelle est la place des femmes justement dans ce secteur? Est-ce que tu sens que il y a une évolution des mentalités? Est-ce que elle est déjà arrivée en fait il y a longtemps? En fait, quelle est la perception là-dessus? Et quel est le ressenti dans les faits?
En fait, pendant longtemps, les femmes dans le secteur agricole étaient, on va dire, invisibilisées. Puisque souvent, c'était le monsieur qui était chef d'exploitation, qui était propriétaire de la ferme. Et madame, elle était là pour aider, elle faisait vraiment le travail d'un responsable d'exploitation, mais sans avoir le statut officiel. Elles étaient vraiment en retrait. Aujourd'hui, heureusement, les choses changent. Elles ont de plus en plus leur place dans le secteur agricole. J'avais regardé justement les chiffres pour la journée du 8 mars, la journée du droit des femmes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 30% des effectifs dans le secteur agricole global qui sont composés par des femmes. Et plus intéressant encore, dans les écoles d'ingénieurs agricoles, aujourd'hui, un étudiant sur deux est une étudiante. Forcément, on voit bien que les chances évoluent. En revanche, ce qui reste beaucoup à travailler, c'est selon les filières. Par exemple, dans le secteur équin, donc les chevaux, aujourd'hui, c'est une femme sur deux en général.
Okay.
Alors que, par exemple, en viticulture, on tombe déjà à peine 15% de femmes. Et dans le secteur de la foresterie, c'est le secteur où les forêts, la gestion des forêts en général et du bois, c'est là où il y a le moins de femmes dans les filières agricoles, on tombe à 4 à 5% selon comment on calcule. Donc là, les femmes dans le secteur agricole, on en a de plus en plus, heureusement. Et là, le gros sujet, je pense, dans les prochaines années, ça va être ce côté-là des filières, d'encourager les femmes à aller dans toutes les filières agricoles pour avoir un taux de femmes un petit peu plus varié dans tous les secteurs agricoles.
Tu mets ça sur quel critère, en fait? Non, tu mets ça sur quelle raison, effectivement, par exemple, que sur la partie forestière, il y a vraiment moins de femmes, alors que sur d'autres, est-ce que tu mets ça sur le compte de la pénibilité ou juste pas assez de la visibilité des opportunités de carrière? Tu mettrais ça sur quoi?
Je pense qu'il y a un gros souci d'image. Quand on pense foresterie, on imagine un homme un peu le mal alpha, baraqué, le bûcheron un petit peu. Donc, beaucoup de femmes se retrouvent pas forcément dans cette image-là. Il y a un côté forcément de pénibilité à prendre en compte. Mais ça, je pense que c'est dans tout le secteur agricole, pas que la forêt. Dans tout, il y a ce secteur-là. Et je pense que oui, le côté image joue énormément. Et c'est d'ailleurs le cas partout. Tu vas dans un garage de tracteurs, il y en a pas beaucoup des femmes. Pourtant, elles ont tout à fait les compétences et les possibilités de le faire, mais ça donne pas une image très féminisée pour l'instant.
Ouais, du coup, il y a quand même un sujet. Enfin, les idées reçues ont la vie dure, quoi. C'est pas les habitudes, mais il y a quand même cette notion là. Là, il y a un gros changement à prévoir. Après, je pense que au-delà de l'image, c'est de mettre aussi en avant des exemples, en fait. Ça, je trouve que c'est ce qui manque un peu. C'est-à-dire, justement, il y a plein de boîtes qui amorcent des changements-là, qui accélèrent sur ces thématiques-là. Et elles sont souvent, finalement, assez peu mises en lumière, en tout cas dans ces métiers-là. Tu vois, on le voit plus dans le secteur tertiaire. C'est un peu plus facile parce qu'on est il y a plus de communicants, mais effectivement, c'est pas assez fait. Je rebondis sur un autre sujet connexe. Moi, j'avais fait effectivement un épisode dédié à la diversité et à l'inclusion toujours dans le secteur tertiaire, pas de jugement, mais et en fait, ce sujet diversité et inclusion, comment il est appréhendé aussi dans ces secteurs agricoles, viticoles? Est-ce que c'est une problématique? Est-ce que c'est un sujet qui trotte un peu dans la tête, mais légèrement? Est-ce que c'est quelque chose qui est adressé très concrètement? Comment ça se vit?
Je pense que ça dépend vraiment des entreprises. Hein. Il y a certaines entreprises qui ont une vision encore un peu à l'ancienne, qui les sujets d'inclusivité, diversité ne sont même pas un sujet. Hein. Ils se posent pas forcément trop la question. Fort heureusement, ce n'est pas la majorité. Hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises du secteur qui se posent ces questions-là, qui veulent justement être un petit peu plus dans l'inclusivité, qui nous posent aussi la question en nous disant clairement comment on peut faire, comment on peut améliorer nos processus de recrutement pour être plus divers dans nos recrutements. Beaucoup, quand on fait les briefs, nous disent « mais ça peut être un homme, une femme, on s'en fout », précise ce genre d'information qui peut être important quand même. Donc, je pense que c'est de plus en plus courant pour les entreprises du secteur de au moins se poser les questions. Ils n'ont pas toujours malheureusement les solutions, ils n'ont pas toujours les façons de faire pour améliorer les choses. En tout cas, c'est une question qui se pose de plus en plus.
Et du coup, plus globalement, toi, tu avais fait un article qui était, félicitations d'ailleurs, était très bon, très, 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 merci, très bien construit sur les 25 critères de discrimination. Alors, c'était assez généraliste. Ça pouvait être, bien évidemment, tout secteur confondu. Est-ce qu'il y en a qui sont, elle est un peu piège, hein, cette question. Est-ce qu'il y en a qui sont, que tu ressens davantage dans ce secteur-là? Quels sont ceux sur lesquels il faut être un peu vigilant, on va dire, pour retourner dans le temps?
Tous, forcément, parce que je pense que tous les critères de discrimination sont importants. Après, il est évident qu'il y en a certains qui reviennent plus. On en a parlé, mais le côté femme, il n'y a pas beaucoup encore de femmes dans certains secteurs. Donc, il y a certaines entreprises, des fois, qui peuvent avoir le cliché un petit peu de se dire « oui, c'est une femme, elle ne va pas réussir à s'imposer, elle ne va pas réussir à avoir le lead » ou ce genre de clichés. Donc, on est là aussi pour les démonter, ces clichés, quand il faut. Pendant longtemps aussi, le secteur agricole avait une image un petit peu à l'ancienne du vieux monsieur blanc dans son tracteur qui n'est pas forcément très ouvert aux couleurs de peau. Force heureusement, les choses évoluent. Et c'est vrai que pour certaines entreprises, ça peut être encore un sujet de se dire comment on va accompagner, par exemple, une personne noire à sa prise de poste dans parfois certaines situations où ça peut être difficile. C'est pas tant le fait de ne pas le recruter, hein. Pour le coup, heureusement, c'est pas ce qui arrive, mais c'est plutôt des questionnements sur comment on va l'accompagner, comment on va travailler avec lui pour que tout se passe bien et qu'il ait pas de problème pour ça.
Alors ça, moi, dans ces cas-là, tu mets ta casquette un peu acteur du changement, là, on va dire. Toi, t'estimes que t'as un devoir à la fois d'acculturation sur ces sujets-là de tes clients et potentiellement des gens qui sont autour de toi, et par ailleurs d'accompagnement à la prise de poste sur justement que ça soit facilité, en fait, tout simplement, les deux.
Oui. Bah, je pense que c'est notre mission, hein, quand on est recruteur, quand les entreprises passent par un cabinet, c'est normalement pas juste pour qu'ils appliquent et que ça soit de simple opérationnel. Ouais. En général, quand ils font appel à nous, c'est pour avoir des conseils, un accompagnement. Je pense que c'est notre devoir en tant que recruteur d'accompagner, de proposer des solutions, de pas être dans le jugement. Parce que c'est facile de dire oui, ils veulent pas une femme, ils sont sexistes, mais c'est plutôt d'aller chercher pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Comment on peut les accompagner pour que justement ça fonctionne? Et c'est aussi notre devoir d'accompagner un peu nos candidats. On les bichonne un petit peu, nos candidats. On n'a pas envie de les envoyer dans une situation auquel ça n'ira pas pour eux, auquel ils seront pas à l'aise, auquel ils auront des problèmes. Donc c'est aussi notre rôle de faire cette relation un petit peu, ce match parfait entre le candidat, l'entreprise, le poste, pour que tout se passe bien entre chacun.
Ouais, top. Ok, j'aime bien cette posture parce que finalement, là pour le coup, je parle de ton métier, mais t'as le droit de me moucher ou de me tacler. Mais souvent, quand on et moi, ça n'est pas mon ressenti, je te rassure. Mais souvent, quand on imagine les cabinets de recrutement, c'est un métier qui est parfois un peu décrié parce que tu sens que c'est un peu en mode bétail, alors que pas du tout en fait. Alors bien sûr, il doit y avoir des mauvais élèves dans le lot, hein, mais comme dans tous les métiers, hein, malheureusement. Mais en fait, quand à t'écouter, on sent qu'il y a il y a une mission professionnelle, mais il y a une mission presque sociale, en fait, là-dedans, et qui est assez profonde. Tu parlais de sens tout à l'heure, et je pense que c'est, ça a l'air assez fort, en fait, quand on parle là. Donc, je trouve que c'est un signal, c'est un signal profond, en fait, aussi, cette volonté de faire évoluer.
Ouais, bah, je pense que justement, il y a beaucoup encore malheureusement de cabinets ou de recruteurs qui sont pas du tout dans ce comté-là, hein, qui vont avoir un côté pas relationnel, qui travaillent à la chaîne et un peu du bétail, hein, comme tu le dis. Forcément, comme il y en a quand même pas mal, ça se voit. Souvent, les recruteurs ont une mauvaise image par rapport à ça.
C'est sûr.
Mais j'ai l'espoir que les choses évoluent, que beaucoup de recruteurs vont changer leur pratique. Je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui remettent en question ces méthodes, ces pratiques, et qui veulent justement de plus en plus arriver dans ce côté de conseil, d'accompagnement, de faire le lien entre les entreprises et les candidats pour que tout se passe bien.
Et justement, le candidat, on en a parlé bien évidemment aussi, mais si aujourd'hui... tu te retrouves justement face à des gens qui sont dans d'autres secteurs et qui pourraient venir découvrir ce qui se passe dans ce secteur-là, ou des gens voilà qui se posent la question de venir justement dans ce secteur-là. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, en fait, très concrètement?
Déjà, le premier conseil, c'est ce qu'ils sont en train de faire en général quand ils me contactent, c'est de contacter directement des personnes dans le secteur, des personnes dans le métier qui pourraient les intéresser pour discuter, faire une sorte d'enquête métier un petit peu pour en connaître les tenants, les aboutissants. Moi, je suis recruteur, je travaille pour plein de métiers différents. J'aurais pas forcément tous les tenants et les aboutissants de chaque métier du secteur. Donc, je peux donner des réponses généralistes, mais autant dans ces cas-là, contacter quelqu'un qui fait vraiment le métier qui vous intéresse en particulier pour voir. Et après, comme on le disait un petit peu, côté formation, diplôme, c'est très important quand même dans le secteur. Donc, je pense que le premier conseil avant de se lancer et de postuler, ça va être de justement se former, aller faire des certifications, des diplômes spécifiques dans le secteur. Mmh. Et le troisième conseil, c'est forcément de bien travailler son CV et le message d'approche ou la lettre de motivation si on a une, pour bien expliquer son parcours, de qu'est-ce qui t'intéresse dans le secteur, qu'est-ce que tu as envie de faire, pour bien préciser au recruteur ou à l'entreprise qui verra ce que tu veux, ce que tu as fait et ce que tu souhaites faire aussi par la suite.
Mmh. Ouais, et justement là-dessus, ma question c'est, est-ce que dans ces carrières-là, ce que tu constates toi en tant que recruteur, qu'en fait c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'évolution, de changement de poste, etc., où ça dépend vraiment des postes. Parfois, il y a des gens, ils restent toujours au même niveau. Mais d'ailleurs, ça les gêne pas parce qu'en fait, il y a une notion aussi de, je dirais pas de confort, mais il y a une notion de passion un peu peut-être dans certains métiers. Donc, est-ce que tu constates toi plutôt des gens qui souhaitent des évolutions assez rapides et monter un peu dans cette notion de management, potentiellement ce genre de choses ou pas du tout?
Je pense que pour le coup, c'est comme tous les secteurs. Ouais. Les générations plutôt anciennes, ils avaient plutôt des carrières linéaires, mmh. où ils évoluaient soit au sein de la même entreprise, soit restaient sur le même poste pendant 15-20 ans.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est évident que pour la plus jeune, c'est cette idée de rester dans la même entreprise ou sur le même poste pendant 15 ans ne fait plus rêver. On va se mentir, chez les jeunes générations, ils ont besoin de cette évolution, de ces changements, des perspectives aussi futures. Mmh. Donc, c'est aussi, nous, notre rôle en tant que recruteurs. On pose toujours la question aux entreprises qui recrutent. Quelles sont les perspectives d'avenir? Est-ce que le poste pourra évoluer vers autre chose? Est-ce que ça pourra évoluer, par exemple, dans d'autres filiales? Il y a certaines grandes entreprises qui ont des filiales un petit peu partout. Donc, est-ce qu'il y a cette mobilité-là ou pas? Parce que c'est un sujet qui revient souvent. Et maintenant, les candidats posent directement la question. OK, je fais ça tant de temps, mais qu'est-ce que je peux faire par la suite? Quelle serait la suite?
Le projet pro, quoi.
Voilà. Un projet plus sur long terme et pas juste le poste aujourd'hui, et puis c'est tout.
Et alors là, on a beaucoup, beaucoup parlé de recrutement. On a finalement assez peu parlé de fidélisation. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles toi, tu sensibilises tes clients? Est-ce que c'est des choses qu'ils travaillent? Ou finalement, comme certaines boîtes, j'avais accueilli quelqu'un de chez Mazar, une invitée il y a très longtemps, qui me disait, nous, on a un turnover mécanique, 30% des gens qui partent au bout de 2 ans et c'est comme ça et on n'arrivera jamais à le solutionner. Alors, c'est un peu fataliste à mon goût, mais est-ce que toi, la fidélisation, c'est un sujet où en fait, ils se disent, il y a un turnover, donc c'est pas grave, nous, on va aller chercher des candidats, ils subissent et voilà, comment tu perçois ça?
Alors forcément, nous, notre premier métier, c'est de recruter avant tout. Hein. On accompagne les entreprises dans leur recrutement. Mais pour cette notion-là de fidélisation, on va plutôt passer par la communication sur nos réseaux sociaux,
ouais.
pour justement donner des conseils aux entreprises sur comment fidéliser, comment accompagner. Mais pour le coup, c'est pas notre métier principal.
Oui, bien sûr.
Des conseils qu'on va apporter comme ça par parcimonie en plus. Et pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on propose en tant que service ou ouais. autre de les accompagner là-dessus. Mais pourquoi pas un jour justement développer cette possibilité-là,
ouais. etc. Ok. Top. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, qui est tout aussi intéressante, mais plus ludique. Est-ce que tu as un livre, un film, un docu, une série à nous conseiller pour qu'on aille s'inspirer?
Oui, bah du coup, j'ai réfléchi à quel livre je pourrais vous conseiller. J'ai choisi de pas forcément parler du recrutement, parce que ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Bon. C'est difficile d'en choisir un seul. Mais par contre, dans le secteur agricole, j'en ai un que je trouve très intéressant. Il s'appelle Peace and Food de Étienne Fourmont, qui est agriculteur et youtubeur. On peut aussi le retrouver sur Instagram. Il fait des vidéos souvent avec pas mal d'humour, pas mal d'autodérision pour parler de son métier et surtout pour démonter un petit peu les clichés, les idées reçues sur le secteur. Donc, il a écrit un livre où il reprend un petit peu toutes les idées reçues, tous les clichés qu'on peut avoir sur le secteur agricole quand on ne connaît pas, pour justement apporter un peu plus de nuances, expliquer si c'est vrai, si c'est faux, comment on peut en parler un petit peu plus et en toute honnêteté et simplicité. C'est pas quelqu'un qui va parler avec beaucoup de chichi et beaucoup de blabla. Il va droit au but, c'est très clair, c'est précis. Donc, je vous le conseille. Si le secteur agricole vous intéresse, vous pourrez apprendre pas mal de choses.
Oui, on en parlait avant de commencer. Je crois qu'il y a pas mal de découvertes. Tu parlais d'enquête métier juste avant. Il y a un peu de cette notion d'immersion justement dans le quotidien, un certain nombre de métiers, etc. Donc, diablement intéressant. Je vais aller voir ça de ce pas. C'est ce que je te disais. Peut-être une future interview dans Lundi au Soleil. Moi,
peut-être, oui. Ça serait sympa, oui.
Ça me plairait bien. Dernière question et après, promis, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager? Tu en as déjà raconté quelques-unes, bien évidemment, sur ton quotidien. Ça peut être un bon ou un mauvais souvenir?
J'en ai un mauvais qui me vient en tête tout de suite.
c'est pas de jugement, ça arrive.
Voilà. On parlait de l'inclusivité, la diversité. Donc, au tout début, quand je suis arrivée en août 2021, du coup, au sein de mon cabinet, mon premier déplacement professionnel envers une entreprise, ça devait être en octobre 2021, je pense. On se déplace dans une entreprise du machinisme agricole, des tracteurs, qui a malheureusement une réputation un petit peu fermée. Voilà, malheureusement. Et une des quand on fait le brief, ils font beaucoup de blagues un petit peu limites sur les femmes, sur les couleurs de peau. Et je suis très, très gênée. Voilà. Moi et mes 24 ans à ce moment-là.
Tu es obligée de sourire poliment un peu, quoi.
Voilà, c'est ça. Et en plus, du haut de mes 24 ans, je commence un petit peu le recrutement. J'étais complètement perdue. Je ne savais pas quoi dire, quoi répondre. Ouais. Aujourd'hui, c'est clair que je ne ferai plus du tout de la même façon. Hein. Aujourd'hui, j'essaierai de creuser un petit peu plus, d'expliquer, de comprendre un peu plus les choses. Mais sur le moment, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant quand tu débarques. Après, avec du recul, je sais très bien que qu'ils le voyaient comme des blagues, qu'ils n'étaient pas du tout sérieux, qu'il n'y avait aucun problème si on recrutait une femme, une personne noire ou autre. Ouais. Mais sur le moment, ça peut surprendre. Donc, il faut aussi prendre ce paramètre-là en compte, creuser un petit peu plus la situation et faire évoluer aussi les choses à son échelle.
Mais je trouve ce qui est intéressant dans ton anecdote, c'est que on est quelques années plus tard. Il y a deux choses qui ont changé. Normalement, il y a déjà un peu les mentalités. Alors attention, hein, c'est pas toute la population française, ni européenne, ni internationale, mais il y a un mouvement quand même assez profond de prise de conscience. Donc peut-être que ça arrive moins déjà, ou c'est un peu plus tempéré.
Heureusement.
Pour des blagues, hein, mais parce que j'en ai vécu assez récemment. Bref, mais le deuxième truc qui a changé, c'est potentiellement toi ou moi. Je le disais il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'avait fait une remarque. J'ai dit, en fait, non, ça passe pas, en fait. Et je trouve que, alors moi, j'ai peut-être probablement un peu moins de tact, mais puis c'était pas dans un cadre professionnel, mais il y a aussi cette notion de posture aussi, qui est de ta posture qui a changé, où tu serais toi-même en capacité avec tact, mais aussi, c'est pas bienveillance, mais aussi, avec culture et en exprimant, en expliquant, c'est important d'avoir cette démarche-là.
Ouais. Oui, je pense qu'avant, j'étais plus dans le jugement, en mode « oh, c'est n'importe quoi, au secours ». Aujourd'hui, je suis plus dans l'idée d'essayer de comprendre pourquoi et d'aider aussi comme je peux pour améliorer les choses.
Top. Amélie, l'épisode touche à sa fin. Je te remercie très, très sincèrement de cet épisode. Je te dis, ça me tenait à cœur de faire un épisode sur ces secteurs-là. Je pense que c'est que le début. On en fera d'autres. Merci pour ta recommandation, Étienne Fourmont. Je garde ça en tête. Il va venir, mais merci du partage de vision, d'état des lieux, d'enseignement, d'ambition. De réalité en fait du terrain, je pense que c'est un truc qu'on n'entend pas assez, c'est un truc qu'on voit pas assez. Donc voilà, c'est un grand et long merci, pardon.
Oui, mais merci à toi pour l'invitation.
Et évidemment, j'espère qu'on se reverra. Je pense que ce sera le cas. Et puis je suis convaincu, je le dis à chaque fois, mais là plus que jamais, que les auditrices et les auditeurs repartiront avec des idées plein la tête et peut-être des envies de changer de métier. Ça, ce sera
peut-être
pas drôle, j'aimerais bien. Mais donc voilà, donc merci encore de cette intervention. Je te souhaite une excellente semaine. Et puis
merci
ensuite, nous aventures de près, bien évidemment, sur LinkedIn.
Oui, avec grand plaisir.
Merci Amélie, à plus.
À plus, salut.
Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine !